Bonjour à tous. J'espère que ça va bien. Alors, je vois qui est arrivé. Je vois Chris avec sa belle chemise rouge. Bonjour Chris. Bonjour Antonia. Bonjour Barbara. Bonjour Cheryl. Freezing in Bartley. Bonjour Antonia. Bonjour Ingrid. Jeannette, Lynn. Hop. John, Nick, Vicky et Lynn Chapman. J'espère que ça va bien. Je vais partager mon écran. Alors, ça n'a pas marché. Voilà, ça y est. Voilà, ça y est, c'est bon. Vous êtes installés, je vous vois bien. Alors, je retrouve le chat. Ça y est, bonjour Chris, bonjour Janet et bonjour John, je vois dans le chat. Bonjour Nick, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire cette leçon. Parce que dans le French, pour le 30-day French Challenge, dont certains d'entre vous ont fait partie, j'avais fait une leçon où je prononçais et donc je voulais faire un point sur les prénoms parce que c'est très important. Ah, alors attendez, je vais voir. Ok. I think I'm back. It's weird because the internet has been acting weird since this evening, yesterday. So, fingers crossed. Donc, je voulais parler des prénoms, du prénom, de l'usage du prénom, parce que c'est très important pour se présenter et aussi d'avoir du contexte. Chris dit, j'ai adoré le défi. Moi aussi, j'ai adoré. C'était vraiment super. D'ailleurs, pour ceux qui en font partie, on a une goodbye party mercredi soir, enfin mercredi à la même heure, de 4 à 5. Et vous allez recevoir un mail normalement d'ici 2 heures. Je vais terminer le mail juste après avoir terminé cette leçon. Donc, c'est pour ça que je voulais parler du prénom. Mais avant, comme d'habitude, qu'est-ce que tu as appris la dernière fois? What did you learn during our last previous session? Je veux savoir pour qu'on puisse remettre un petit peu les choses, se remettre les choses dans la tête. Donc, Antonia dit la portée, oui, tout à fait. Donc, on va dire la portée d'un acte, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que vous avez appris la dernière fois? On avait surtout fait la correction des devoirs et je vous avais un petit peu parlé des actualités en France. D'ailleurs, en fait, on s'attendait à avoir un nouveau confinement et là, ils n'ont pas annoncé, donc on attend. Et maintenant, c'est les vacances. Ok. Alors, je vais sortir mes notes si je vois pas d'autres réponses. Les notes que j'ai préparées. Voilà. Alors, je vais préparer. Donc, une portée mondiale. Bonjour, Jack. Une portée mondiale. Donc, tout à fait. Donc, on dit la portée d'un message, par exemple. La portée d'un acte. Se mettre à faire quelque chose. Se mettre, par exemple, avec le confinement, je me suis mise à la broderie. J'aimerais beaucoup, mais ce n'est pas le cas. Bonjour Norman. Quand même aussi. Ah oui, c'est vrai, on avait parlé de faire quelque chose sur quand même. Quand même. Il faut que je le rajoute à la liste. Quand même. Alors, Jack, attention, c'est 21e. 21e. Il y a un i. Attention, il y a un i ici. 21e. Donc pour le 21e siècle. Très bien. Donc quand même, c'est un mot qui, enfin c'est une expression qui est un peu difficile à traduire, sur lequel les élèves ont beaucoup de mal. Et ça, en fait, c'est plutôt un sentiment pour la traduction plutôt qu'une exactitude. C'est pour ça qu'on avait regardé ensemble sur World Reference quand même. Il y a énormément de traductions parce que ça dépend du contexte. OK. Alors, donc aujourd'hui, l'idée, c'est de travailler sur le prénom. Je vais vous donner beaucoup de vocabulaire avec des exemples. Donc, on va travailler du vocabulaire, on va travailler de la culture française. Et comme ça, ça vous permet d'être plus confiant quand vous entendez des éléments par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui se prononce, qui se prononce, qui se présente. Quelqu'un qui se présente, pardon, par exemple, ou si vous devez vous présenter. Antonia dit, Géraldine, peux-tu parler de l'expression n'importe quoi ? Oui. Ça veut dire you are lying, d'accord ? On va regarder ce que nous dit World Reference, comme ça, ça me donnera le contexte pour vous donner toutes les trucs. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi Internet n'est pas très bon aujourd'hui. Donc, n'importe quoi, c'est nonsense. Donc, par exemple, tu dis n'importe quoi, c'est you're talking nonsense. Alors là, je vais vérifier comment ça s'écrit. Nonsense. Donc, je vais vous laisser trouver la bonne traduction, mais il y a cette idée de c'est faux. Tu dis n'importe quoi. Ah bah tiens, ils ont mis une phrase très similaire. N'importe quoi, c'est anything ou nonsense. Voilà. C'est surtout ça. Tu fais vraiment, on va juste mettre n'importe quoi, parce que si je vous mets vraiment, ça va vous embrouiller. Tu fais n'importe quoi, c'est what you're doing doesn't make any sense. And ce serait tu fais des bêtises. Et là, je vois que la traduction n'est pas tout à fait directe. Faire n'importe quoi, voilà, you're out of control. C'est très intéressant. C'est une question très intéressante, Antonia, et Cali aussi par rapport à quoi que ce soit. Mais là, il faudrait vraiment faire une leçon à 100% sur ce sujet, parce que c'est comme quand même, en fait. On ne va pas pouvoir vous donner une traduction qui marche à tous les coups, parce que comme il y a une intention derrière, la traduction ne va pas être la même. Par exemple, si on prend à l'inverse l'anglais, it's nonsense, ou rubbish, or any old thing, or anything, c'est vraiment des choses qui vont dépendre du contexte. Donc, même si on veut traduire dans l'autre sens, la traduction va être différente. Donc, si vous voulez, je peux noter ça, et la prochaine fois, on va faire... alors, je marque quand même... n'importe quoi, et Cali m'a dit quoi que ce soit. Je ne pense pas que ça soit très difficile si j'ai préparé la leçon, parce que je peux vous faire des cas avec les différentes intentions. Mais l'idée, c'est plus de comprendre le contexte. D'accord ? Ça, c'est vraiment clé. C'est comme quand même. Si vous comprenez tout ce qui se passe autour de quand même, ça vous permet de le traduire. Ce n'est pas le mot qui est important en lui-même. D'accord ? Donc, la prochaine fois, je ferai une leçon là-dessus. D'accord ? C'est une très bonne idée. N'hésitez pas surtout à suggérer ça hein, quand vous répondez aussi aux questions de leur homework. Vous pouvez proposer des idées. Donc, on fera ça la prochaine fois. Merci de l'idée comme ça. Moi, c'est plus facile aussi pour préparer les leçons. Alors, donc le thème du jour, c'est le prénom. J'ai noté un peu mon surnom, un nom. Donc oui, il y a quelque chose qui est important par rapport à votre compréhension du français parlé, c'est qu'on va la plupart du temps prononcer les prénoms et les noms en fonction de la langue. Donc par exemple, tout à l'heure, je regardais, c'est un truc que je pense que les Britanniques reconnaissent. Donc c'est le Graham Norton Show. C'est un show britannique, c'est un talk show avec Graham Norton. Et il avait invité Camille Cotin. Et ça m'a fait directement penser à vous. Camille Cotin, pour ceux qui la connaissent, elle est dans Call My Agent sur Netflix. Et en fait, il l'appelle Camille. Et en français, ce n'est pas Camille, c'est Camille avec un Y sound. D'accord ? Camille. D'accord ? Camille. Il n'y a pas de L, on ne prononce pas le L, parce que I-L-L-E égale Y, d'accord ? Donc en fait, Graham Norton, donc il est irlandais, il dit Camille, et nous, en français, on dit Camille. Et c'était la même chose pour Theresa May, quand j'avais parlé d'elle par rapport au Brexit, en fait, j'ai prononcé avec l'accent français, et donc ça n'a pas donné, ça n'a pas aidé les élèves. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Le prénom. Donc, le prénom, c'est the first name. Donc, pour moi, mon prénom, c'est Géraldine. D'accord ? Ah, OK. Hop ! Je fais comme ça. C'est mieux comme ça ? Merci, Lynn. C'est vrai que ça arrive tout le temps. Donc, mon prénom, c'est Géraldine. Donc, c'est the first name. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Pour ceux qui connaissent, d'ailleurs, ceux qui cherchent, quand j'ai préparé mes notes, le film, c'est Le Prénom. Est-ce que certains d'entre vous l'ont vu ? Est-ce que vous avez vu Le Prénom avec Patrick Bruel ? C'est un film très culturel, très intéressant, qui parle justement de l'influence du prénom sur la perception des gens qui le portent. Ben, je vous conseille fortement de le regarder. J'en parle beaucoup, enfin j'en parle souvent dans Commune française parce que c'est extrêmement intéressant à écouter parce que c'est une ancienne pièce de théâtre et donc il y a énormément de dialogues. On reste uniquement dans un salon et c'est très parisien et c'est vraiment un milieu intellectuel riche et bourgeois et il parle du prénom, de l'influence du prénom sur la vie. Aussi, une autre chose qui est un peu culturelle, la prochaine fois que vous pourrez venir en France, enfin pour ceux qui y sont déjà, c'est bien, apprenez à dire votre prénom en français s'il a un son difficile. D'accord ? Prénom en français s'il a un son qui n'existe pas en France, en français. Pas en France. Par exemple, pour Lynn, ça va, c'est facile, parce que même si la prononciation du I ou du N n'est pas exactement la même, on peut très bien comprendre Lynn comme un prénom. Pour John, on connaît à peu près ce nom en anglais. En fait, vous avez tous des prénoms qui sont assez faciles. Par exemple, pour Norman, par exemple, tu as le R anglophone. Donc, par exemple, un Français va dire Norman. Je ne dis pas que c'est une bonne façon de prononcer ton prénom, mais tu peux t'attendre à ce que des francophones le disent comme ça. Ils vont dire Norman avec un A ouvert, avec un R français. Et donc, tu peux t'attendre à ce qu'on le prononce comme ça. Et si tu veux faciliter la compréhension de ton prénom, tu peux t'entraîner à le dire comme ça. À nouveau, ce n'est pas une obligation. Je ne vous demande pas de changer qui vous êtes, mais je sais que pour des élèves qui voyageaient beaucoup en France, ça les a beaucoup aidés à pouvoir discuter parce qu'ils savaient prononcer leur prénom en français d'une certaine façon. Les gens qui ont déjà prononcé, je vois, qui ont déjà écrit, je vois Jack, Antonia, c'est assez facile. Chris aussi, on va avoir le R. Chris. Tous les prénoms avec un R, on va plutôt utiliser un R français. Donc moi, l'exemple que j'avais, c'était une élève qui s'appelait Jennifer et je lui ai dit qu'en français, on disait Jennifer. Ce n'est pas pour changer son prénom, c'est vraiment pour lui donner du contexte. On va utiliser des sons francophones. Voilà, ça, c'est pour la petite astuce. Et moi, quand je suis aux États-Unis ou en Angleterre et que j'ai besoin d'un Starbucks, par exemple, je ne dis pas que je m'appelle Géraldine, je donne un autre nom. Et ça fait que c'est plus facile à prononcer parce que Géraldine, il faut en général que je répète 4 fois et c'est trop compliqué. Voilà, donc on va passer vraiment au vocabulaire. Donc, un prénom qui est comme ça, par exemple. Comment vous appelez ça? Ça s'appelle un prénom quoi? Est-ce que vous connaissez? Composé, tout à fait. Bien joué, Lynn. Donc, c'est un prénom composé. Et ici, il y a un tiret, d'accord? Donc, pour ceux qui aiment bien la typographie, donc ça s'appelle un tiret. Et il faut bien le mettre, d'accord? En français, quand on a un prénom composé, on a un tiret. On peut pas, enfin, je crois qu'on n'a pas des prénoms composés sans tiret. Ouais, voilà. Par exemple, si je suis en train de réfléchir à des prénoms que j'ai pu voir. Donc, par exemple, Mary Ann. Si vous avez un prénom francophone, ce sera Marie Anne. D'accord? Et ça constitue un seul prénom. C'est un seul prénom. Ensuite, on peut avoir des deuxièmes prénoms. Donc ça, c'est en opposition au prénom d'usage. Par exemple, on va prendre quelqu'un qu'on connaît. Hop, on va prendre Barack Obama, parce que je crois qu'il a au moins un deuxième prénom. Ah, il n'est pas marqué là. On va prendre Emmanuel Macron. Ah, c'est là. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Et il a jackpot. Ah, Jack, je m'appelle Anna aux États-Unis. Parce que c'est plus facile. C'est mon deuxième prénom, Anna. Et en fait, c'est plus facile pour le Starbucks. Tous les trucs où il y a un prénom avec une commande. Donc, par exemple, Emmanuel, on est en ligne, il s'appelait comment ? Jean-Michel, on va dire qu'il s'appelle Frédéric. Allez, Frédéric Macron. Voilà, donc Emmanuel, c'est son premier prénom. Frédéric, c'est son deuxième prénom. Et Macron, c'est son nom de famille. Et on dit que Emmanuel, c'est le prénom d'usage. Ou parfois, on dit le nom d'usage s'il y a d'autres noms de famille. D'accord ? Prénom usuel. Non, c'est usuel. Pardon pour ceux qui prennent des notes. Prénom usuel. Voilà, c'est prénom usuel. Donc, moi, mon prénom usuel, c'est Géraldine. Et mon deuxième prénom, c'est Anne. Emmanuel Frédéric Macron. Il y a aussi quelque chose de rigolo. Ça m'est arrivé au Royaume-Uni, par exemple. Comment est-ce que vous traduisez le prénom Lawrence en français? Comment est-ce qu'on traduit Lawrence en français? Laurent, tout à fait. Et le prénom féminin, c'est Laurence. D'accord? C'est Laurence. Donc, en fait, ça, c'est aussi une confusion qui peut arriver. Si vous avez un prénom qui se traduit par le genre opposé en français, ça surprend des fois. Et je pense qu'il y a beaucoup de francophones qui ne parlent pas anglais et qu'ils doivent croire que quelqu'un qui s'appelle Lawrence, c'est une fille. Et d'ailleurs, j'ai pensé à ça ce matin parce que j'ai terminé de lire le livre qui s'appelle « Fille » de Camille Laurence ou Laurence. Et c'est ça qui lui arrive. Son personnage s'appelle Laurence en français et elle va faire un voyage linguistique à Londres. Et les gens de sa famille d'accueil croient que c'est un garçon, mais c'est une fille. Voilà, le livre, c'est « Fille ». Vraiment bien. Et en français, comment est-ce qu'on traduit ? Alors, Nicolas, en anglais, c'est Nicolas en français. Et c'est quoi l'équivalent féminin ? Nicole, tout à fait. Nicole, j'ai vu qu'il y a encore mon internet qui a fait des bêtises. Donc Nicolas, c'est Nicolas et Nicolas, c'est Nicole. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est surprenant pour des francophones quand il y a une femme qui s'appelle Nicolas. Ensuite, on a des équivalents. Et après, on va passer au nom de famille. Comment est-ce qu'on dit Bénédicte en français ? Ça, ça peut être utile pour vous si, par exemple, vous voulez pouvoir donner l'équivalent de votre prénom ou du prénom d'un ami. Quel est l'équivalent de Bénédicte ? William, Harry. Chris dit Benoît. Ouais, tout à fait. Alors, il n'y a pas d'accent. Par contre, il y a un accent, effectivement, sur le... que c'était un roi de France. Est-ce que vous savez pour Harry et Margaret? Harry, c'est Henri et Margaret, c'est Marguerite. Tout à fait, très bien, c'est tout à fait ça. Donc, en fait, on a aussi certains noms qui ont des équivalents en français que vous pouvez connaître ou non et qui vous faciliteront la vie si jamais vous préférez adapter votre prénom à la France. Ensuite, on a le nom de famille. Est-ce que vous connaissez l'autre nom du nom de famille ? Sachant que parfois, on ne dit pas le nom de famille, on dit juste le nom. Tu dis Hérald, moi j'ai jamais entendu Hérald. Le prénom Harold, existait, mais qui n'y sont plus utilisés. Le patronyme, donc c'est le nom du père et c'est le nom du famille. Ah non, le surnom et le nom, ce n'est pas du tout la même chose. C'est ce qu'on va voir juste après. J'avais bien noté de vous en parler. Donc, le nom de famille, donc par exemple, Macron pour Emmanuel Macron. D'accord ? Et le patronyme, c'est la même chose. C'est le nom de famille. C'est juste qu'on n'utilise plus ce mot parce qu'il est trop lié au père. Vous m'avez parlé du surnom, évidemment, le surnom, ce n'est pas la même chose. Le surnom, c'est une adaptation du nom, enfin du prénom. Par exemple, pour le nouveau président des États-Unis, ça c'est vraiment, je voulais vous en parler parce que ça ne se ferait pas du tout en France, le nom d'usage du président des États-Unis, c'est Joe Biden. Et en fait, quand on regarde sur Wikipédia, il s'appelle Joseph Biden. Et on ne l'appelle pas Joseph Biden, on l'appelle Joe. Et ça, c'est impossible pour le moment en France. Ça n'existerait pas. Aucun président ne va utiliser son surnom. Donc, Joe, c'est un surnom parce que c'est l'adaptation de Joseph. D'accord? Vous en avez plein d'autres, hein, vu que je sais que particulièrement dans le monde anglo-saxon, on utilise beaucoup des adaptations du prénom. Il y a Dick Cheney aussi. Pour Emmanuel Macron, il y a des choses qui peuvent revenir dans la presse, surtout quand c'est satirique. Quel est le surnom tiré du prénom Emmanuel? Ah non, c'est pas Manu, c'est Manu. Ouais, Vicky, tu as tout à fait trouvé. C'est Manu. Donc, il y a par exemple quelque chose qui peut ressortir. C'est Déconne pas Manu de Renaud. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut on peut voir à propos. Donc. Heureusement que Google me dit que Manuel Valls, ça s'écrit comme ça. Donc, le surnom de Emmanuel, c'est Manu. D'accord? Et pour ceux qui connaissent le chanteur Renaud, il a écrit une chanson il y a plusieurs dizaines d'années qui s'appelle Déconne pas Manu, qui raconte l'histoire de son ami qui est dépressif parce que sa petite amie est partie. Et il lui demande de faire attention à lui et que, il aura d'autres femmes dans sa vie après elle. Et donc, c'est une headline, c'est un titre de presse qui est revenu à propos soit d'Emmanuel Macron, soit de Manuel Valls, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur. Donc, si vous entendez parler de cette chanson en ce moment, ou avec des adaptations du verbe, par exemple, ça fait référence à ça. Ça fait référence à la chanson et au fait qu'on va utiliser le surnom d'Emmanuel Macron d'une façon familière, qui peut être irrespectueuse, mais avec ce contexte de la chanson de Renaud. Et ça, vraiment, avoir un président ou quelqu'un de politique qui utilise un surnom, ça n'arrive, enfin, ce n'est pas arrivé, ce n'est pas du tout dans la culture francophone pour l'instant. Y a quoi d'autre? Je regarde mes notes pour pas rater quoi que ce soit. L'opposé, donc le surnom, c'est vraiment une adaptation du nom, hein. Sachant que ça peut être positif ou ça choisi ou pas. Il y a quelque chose aussi que je voulais vous dire par rapport au nom de famille. C'est quoi le nom de votre mère en français? Le nom de... Non, comment ça s'appelle le nom de votre mère? Votre mère a probablement changé de nom. Est-ce que vous connaissez? C'est le nom de jeune fille. On utilise maintenant aussi, je crois, le nom de naissance. Nom de naissance. Je regarde si c'est le cas. Ouais, c'est ça. Le nom de naissance. Donc, c'est le nom avec lequel on est né, surtout en tant que femme, si on a pris le nom de famille de son mari. Le matronyme, ça peut exister, mais ce n'est pas du tout utilisé. Donc, je ne veux pas rajouter un niveau de difficulté. Donc, par exemple, la façon dont on va le dire, c'est. On va prendre Marie Curie. Je vais écrire son nom correctement. On va l'écrire comme ça. Marie Curie, née est une grande scientifique polonaise. Voilà. Donc là, on va utiliser ce « né ». C'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans les encyclopédies. Et ça va donner le nom de naissance, le nom de jeune fille. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve sur des formulaires, le nom de jeune fille. Ensuite, quand on parle parfois d'écrivain, par exemple, C.S. Lewis ou J.K. Rowling, comment ça s'appelle ça? Ah, Vicky, tu es déjà un peu en avance sur mes notes, mais c'est pas ce que je recherche. Comment ça s'appelle ça? Vous savez quand même. C'est le même mot en anglais. C'est ça, ce sont des initiales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la littérature beaucoup, mais ça, on le voit pratiquement pas en France, sauf quand ça devient des surnoms, par exemple. Mais on ne les utilise pratiquement pas pour des auteurs. En général, pour un auteur franco-français, il y a quand même des surnoms qui sont liés à des initiales. Donc, par exemple, François-Xavier, en général, on va l'appeler FX. Et Jean-Baptiste, on va l'appeler JB. D'accord ? Donc ça, ce sont des initiales qui deviennent des surnoms, parce qu'on va les appeler comme ça. Mais pour des auteurs, je vois pas d'auteur avec un nom, avec des initiales dans la francophonie. Alors, je prends... les artistes, un nom de plume. Par exemple, vous pouvez m'en citer des noms de plume. Vous en avez? Je suis sûre que vous en connaissez. Même je suis sûre qu'il y en a plein que je ne connais pas. Alors, Vernon Sullivan est le nom de plume de qui? Ingrid me dit on utilise nom de plume en anglais. Ah, c'est bien aussi. Est-ce que vous savez de qui? Ça, il faut connaître la littérature française du 20e siècle. Vernon Sullivan, c'est le nom de plume de Boris Vian. C'est l'auteur de L'écume des jours. Et en fait, il utilisait son surnom qui avait l'air d'être américain pour écrire des romans qui paraissaient être américains. Et il y a beaucoup de gens qui y ont cru. Et ça, c'était vraiment une grande, grande, grande... C'était vraiment incroyable, en fait. Il avait écrit ses romans en faisant croire qu'ils étaient des traductions de romans américains alors que c'était lui qui les avait écrits. Je crois que J'irai cracher sur vos tombes, il l'a écrit sous ce pseudo. Ouais, c'est ça. Et ça avait fait scandale parce que il avait menti et que c'était des romans très qui faisaient très américain pour un romancier français. Et Romain Gary est le nom de plume de Roman Kazeff. Kazeff. Et Romain Gary, il a écrit La promesse de l'aube. Je regarde s'il y en a d'autres, évidemment, soit. La promesse de l'aube. Chris demande, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes qui utilisent un seul nom comme Cher? Je pense que oui. Ouais. Surtout il y a beaucoup d'artistes. Il y a Angèle, par exemple, la chanteuse Angèle. Pomme. Jane, tout à fait. Alors, Jane, c'est quand même c'est un surnom. Pomme, c'est un surnom. Et Angèle, c'est son vrai nom. Ce sont les artistes. Ouais, mais Adèle, elle est anglaise. Je suis tout à fait d'accord. Donc, là, je cherche des artistes francophones. Angèle est belge, Pomme est française et Jane est française aussi. Il y a Sheila aussi. Suis en train de réfléchir à d'autres. Je pense qu'il y en a plein, c'est juste que ça ne me revient pas. Donc là, ce sont effectivement des artistes qui ont utilisé leur prénom ou un pseudonyme. Sachant que, voilà, on est arrivé à ce que je voulais dire, donc un pseudonyme. Et ça, c'est quelque chose qu'on récupère sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'on va utiliser un pseudo, mais ça, vous l'utilisez aussi en anglais. Donc un pseudonyme ou un pseudo. Et ça peut être des initiales, notamment. Par exemple, le photographe JR utilise ses initiales comme pseudonyme. Le photographe JR utilise ses initiales comme pseudonyme. C'est un photographe qui a récemment fait un grand montage au Louvre, par exemple, où on croyait je crois que c'était que la pyramide sortait du sol. Il a fait énormément de collages aussi dans les favelas au Brésil. Il a vraiment fait beaucoup, beaucoup d'expositions de ce genre. Dans les pseudos aussi, vous avez tous les dessinateurs de BD. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a Hergé a appris à inverser ses initiales pour en fabriquer son pseudonyme. C'est Georges quelque chose. Georges Rémy. Avec un S. Donc il y a vraiment toute une utilisation du nom et surtout quand il y a de l'art qui est derrière. Et pour revenir à l'art, il y a aussi une traduction qui a été modifiée récemment. Donc, je voulais parler. Comment vous dites un ghostwriter? Je voulais en parler parce que je trouve que c'est important de montrer que le langage et son usage évoluent. Ça, c'est très important. Comment vous dites un ghostwriter en français? Selon l'âge auquel vous avez appris le français, comment vous l'avez appris aussi, la traduction va évoluer. Une plume pour Cali. Alors, donc il y a plusieurs traductions, mais ce que je voulais évoquer, c'est que pour énormément de gens, on utilisait le mot nègre et parfois on mettait littéraire. Et ça, c'est un usage qu'on n'utilise plus, mais je voulais le dire parce qu'en fait, il est encore beaucoup, beaucoup présent pour en parler. Et je voulais vous montrer que la langue évolue. Donc, c'est un mot, c'est une expression que moi, je ne veux plus utiliser. Et donc, on va utiliser plutôt, comme tu disais, Cali, on va utiliser un prête-plume. Où on va utiliser une plume. Mais c'est encore tellement présent que je voulais qu'on en parle parce que ça, pour moi, ça me faisait penser au nom de plume et ça a évolué. Et c'est important, je pense, que la langue évolue. Il y a aussi, qu'est-ce que j'avais noté? Écrivain fantôme, mais moi, j'en avais jamais entendu parler. D'accord? À ce moment-là, on utilisera l'expression américaine, enfin l'expression anglophone, si on le veut. Mais ça a changé. Donc il y a la plume, le nom de plume, le prête-plume ou une plume. Qu'est-ce que je vous avais noté? Je crois que c'est tout. Ah, sur les initiales connues aussi. C'est qui, bébé? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, je pense que vous le savez. Alors, VGE, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire récente, c'est Valéry Giscard d'Estaing, qui était un ancien président de la République. Et il était. Attention, il ne se. Dé il se Il ne se définissait pas avec ses initiales, mais c'est comme ça qu'on l'avait surnommé. Et bébé, c'est Brigitte Bardot. Donc ça, c'est vraiment des initiales emblématiques que tout le monde connaît et qui vraiment sont liées à ce personnage. Et si on a des initiales ici avec CS, JK, BB, VGE, qu'est-ce que c'est à ce moment-là, ça? Qu'est-ce que c'est ça si ce n'est pas des initiales? Comment ça s'appelle? Le train. Ouais, en fait, comment est-ce qu'on le. C'est ça. Alors, pour moi, c'est un sigle. Ce n'est pas un acronyme. Je vérifie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un sigle. On va faire la différence. Qu'est-ce qu'ils disent là? Sida. On va en profiter pour faire un petit point, donc abréviation, c'est pas non plus ça. Ok, alors on va faire un petit point. Donc les initiales, ça représente quelqu'un. Par exemple, AS, pour Lynn, c'est LCW. Pour Norman, c'est NR. D'accord? Donc ça, c'est les initiales. Ensuite, on a ce qu'on appelle un sigle. Ça, ce sont les initiales de quelque chose qui n'est pas une personne. Par exemple, le TGV, c'est un train. Un RER, c'est comme un métro, mais c'est un train. Et la SNCF, c'est l'entreprise qui s'occupe des trains en France. Ça, c'est un sigle. Ça veut dire qu'on épelle. D'accord? On épelle, on dit TGV, on dit RER, on dit SNCF. Alors qu'un acronyme, on le lit. Qu'est-ce que c'est un ovni? C'est vrai ça, j'ai jamais pensé à vous faire. C'est quoi un ovni? Il y en a qui savent. Oui, le transport des extraterrestres. Donc en fait, on appelle ça un objet volant non identifié. D'accord? Je crois que c'est UFO en anglais, hein. UFO, c'est ça. Transport des extraterrestres. Oui, j'adore, c'est ça. Et c'est quoi le sida? AIDS, c'est ça. Donc ça, c'est un acronyme parce qu'on va lire les lettres. On ne dit pas O-V-N-I. On ne dit pas SIDA, on le prononce. D'accord? Par exemple, la maladie qui. La pandémie en ce moment, qu'est-ce que c'est? C'est un sigle ou c'est un acronyme? Oui, Chris demande, on prononce les acronymes comme des mots. Oui, tout à fait. Donc, COVID, comme on dit COVID et pas COVID, et d'ailleurs, on est censé dire la COVID, mais personne ne le dit, c'est un acronyme. Abréviation, c'est quand on coupe un bout. D'accord? Je ne sais pas pourquoi mon internet n'est pas bon aujourd'hui. Une abréviation, donc c'est quand on va couper un appart pour un appartement et une aprem pour une après-midi. Est-ce qu'il y a une autre? Il y aura probablement d'autres choses. Ok. Donc en fait, tout ça, ce sont des abréviations. Et parfois, on peut les couper et ça soit compris. D'accord. Et ce sont des trucs différents. Là, je voulais vraiment parler des noms pour l'usage, en fait, pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Et je vais terminer vite fait pour rappeler les verbes. Donc par exemple, on dit s'appeler, je m'appelle. Chris, d'accord. On peut dire je me nomme aussi Antonia, mais c'est beaucoup, beaucoup moins utilisé. On peut dire mon nom est Vicky, d'accord. Oh, pardon, pardon, Vicky. Vicky. Mais en général, on dit je m'appelle Chris. D'accord? On peut dire aussi moi c'est Jack. D'accord? Ou je suis. Je remonte les prénoms. Je suis Lynn. D'accord? Donc en fait, il y a plein, plein de façons de se présenter. Mais vraiment, l'idée, c'est que ça soit plus clair parce que des fois, quand vous avez des formulaires aussi, c'est difficile de savoir. Quoi écrire? Je sais que pour moi, name, surname, family name, je ne savais jamais trop quoi écrire. Et l'idée, c'est d'avoir tout ça et surtout de voir de la culture. Est-ce qu'un pseudo, c'est un acronyme? Non, pas forcément. Pas forcément parce que un pseudonyme, c'est juste un autre nom. Par exemple, pour Boris Vian, tu vois, on dit que c'est son nom de plume parce que c'était un auteur, c'était un écrivain. Donc on dit un nom de plume, mais c'était aussi son pseudonyme. On peut tout à fait dire Vernon Sullivan est le pseudonyme de Boris Vian. C'est juste un autre nom, d'accord? un acronyme, c'est juste. Où est-ce qu'on les a vus? C'était au-dessus. Un acronyme, c'est juste quand il y a des lettres au début de chaque mot. Par exemple, un ovni, c'est un objet volant non identifié. Donc, on prend le O, le V, le N et le I, ça fait ovni. Et donc, ça devient, c'est un acronyme. Pour SIDA, ce sont les mêmes lettres que pour AIDS. C'est juste. Pas forcément. OK? Alors, je vais passer, aller vite fait sur les devoirs. Donc, pour la prochaine fois, parle-moi des prénoms et des noms de ta famille. L'idée, Zoro est un pseudo. Oui, Cheryl, tout à fait. Zoro est un pseudo. C'est ça. Parle-moi des prénoms. De la leçon. En utilisant le vocabulaire de la leçon. Alors, la dernière fois, c'était parle-moi d'un fait divers positif. Donc, j'ai sélectionné des devoirs de personnes dont je n'avais pas vu les devoirs depuis un moment. Mais bravo pour ceux qui les ont soumis. Il y avait une question sur laquelle que je ne veux pas rater de Antonia. Elle disait que la dernière séance n'était pas dispo en ligne. Alors, c'est possible. Comme vous l'avez su, parce que je vous ai écrit la dernière fois, on a eu un très, très gros problème sur le site où on a les cours. Et en fait, le site est complètement mort. Et donc, il a fallu le réparer. Et plutôt que juste le réparer, on a décidé de changer le système. Bon, je vous passe les détails, mais ça aurait dû prendre 3 mois. Et en fait, on a réussi à le faire en 1 semaine et demie. Et donc, il est possible que ça ne soit pas en ligne parce qu'il y a encore des petits bugs. Mais on fait ce qu'on peut et ce sera de nouveau en ligne dès que possible. Voilà, donc je suis désolée. Mais on a eu une énorme panne. Enfin, ça a été un. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, merci de me l'avoir signalé. J'en ai parlé à Jennifer, mon assistante, pour qu'elle me dise ce qu'il en est. Alors, donc j'ai 7 minutes. Je voulais passer sur le travail d'Anna. Donc, dans le zoo de Wrocław en Pologne, un rhinocéros indien était né en janvier. C'était la première naissance de cette espèce depuis la création du zoo il y a 155 ans. Seulement 66 parcs zoologiques en monde s'occupe de l'élevage de cette espèce qui est en risque d'extinction. On estime qu'il y a 3 600 rhinocéros au total, 170 entre eux habitent en zoo. Les médias en Inde ont parlé de cet événement car la nouvelle concerne un animal dont l'origine est ce pays. Donc Anna, c'est bien, tous les mots sont justes. Il n'y a aucune petite faute d'orthographe. C'est pour ça que je voulais travailler sur ton travail parce qu'on va pouvoir améliorer à partir d'une base qui est très très bien. Et c'est le cas pour tous les autres devoirs. Je sais qu'il y a Ingrid qui a soumis quelque chose de vraiment bien, Christopher aussi, Antonia aussi, il y a Lilia aussi qui a soumis quelque chose. Et comme Anna, je n'avais pas corrigé depuis un moment, j'ai sélectionné son devoir aussi parce que ça vous fait travailler vous. Et on n'est pas sur de la petite faute d'orthographe. On est vraiment là pour travailler des petits détails pour que ça soit plus correct dans la grammaire. Intéressé plutôt au lieu en général plutôt qu'à l'intérieur du lieu. Parce que si on dit dedans, on s'intéresse à l'intérieur. Par exemple, dans le château de Windsor, il y a, on va inventer, 20 chambres. À mon avis, il y en a plus que ça. Et 30 salles de bain. Là, on s'intéresse physiquement à l'intérieur du lieu. D'accord? Mais par exemple, on peut dire on mange très bien au château de Windsor. D'accord? Et là, on est juste sur le lieu. On n'est pas sur la l'idée que ça soit vraiment à l'intérieur, c'est dans cet à cet endroit-là. Donc, au zoo de Wrocław en Pologne, un rhinocéros indien était né en janvier. Alors ici, en fait, on va dire il est né en janvier. Parce qu'on va mettre un passé composé. Ouais. On va mettre un passé composé, ça suffit. Est né en janvier. Et là, ça, je vous l'avais déjà dit, mais tu as peut-être oublié, les mois n'ont jamais de majuscule. Les mois, les jours de la... les mois et les jours de la semaine aussi, il n'y a pas de majuscule. D'accord? On ne dit pas le lundi, je vais à la piscine. D'accord? On dit le lundi, je vais à la piscine. Il n'y a pas de majuscule. En juillet, je mange des glaces toute la journée. D'accord? Pareil, pas de majuscule sur les noms des jours de la semaine ni sur les mois. Au zoo de Wrocław en Pologne, un rhinocéros indien est né en janvier. On va même plutôt mettre carrément l'inverse. On va mettre un rhinocéros indien est né en janvier au zoo de Wrocław en Pologne. Comme ça, on commence par le sujet principal, même si c'est correct de mettre l'inverse. Un rhinocéros indien est né en janvier. Ok. C'était la première naissance de cette espèce depuis la création du zoo. Il y a 155 ans, ça c'est très très bien. On peut mettre c'est ou c'était. C'est bon. Seulement 66 parcs zoologiques en monde. Alors là par contre, ça ne va pas. Qu'est-ce que vous mettriez à la place de en monde? En, ça c'est la chose à corriger. Le monde est correct. C'est ce « en » là qui ne va pas. Qu'est-ce que vous mettez à la place du « en » ? Dans le monde. Ouais, on va mettre « dans le monde ». Seulement 66 parcs zoologiques dans le monde s'occupent de l'élevage de cette espèce. On peut mettre même seul. Les deux sont corrects. Seul ou seulement. Seuls 66 parcs zoologiques dans le monde s'occupent de l'élevage de cette espèce qui est en risque d'extinction. En fait, il y a un truc qui me chagrine là, mais j'arrive pas à corriger quoi. J'y ai repensé tout à l'heure quand j'étais en train de préparer la leçon. Je me lisais dans ma tête qui est en risque d'extinction. Il y a un truc qui ne va pas. J'ai l'impression que ce n'est pas français, mais je n'arrive pas à savoir quoi mettre. En risque d'extinction. En danger critique. En fait, je crois que ça ne se traduit pas pareil. On va plutôt mettre en danger d'extinction. On ne dit pas en risque de comme ça. S'occupe de l'élevage de cette espèce qui est en danger d'extinction. On estime qu'il y a 3600 rhinocéros au total. Alors là, ça c'est juste une petite correction pour que ça soit plus dramatique. On va dire qu'il ne reste que. Qu'il ne reste que 3600 rhinocéros au total. 170 d'entre eux. Alors là, il y a une faute. Qu'est-ce qui manque ? On estime qu'il ne reste que 3600 rhinocéros au total. 170, il manque quelque chose ici. Il y a deux options. Ouais, c'est d'entre. 170 d'entre eux. J'ai un doute là. Ouais, c'est bien ça. 170 d'entre eux habitent en zoo. Alors là, c'est une... Ça, c'est une erreur. On peut corriger. parce qu'en fait, c'est une traduction littérale de l'anglais qui ne va pas en français. Je vais juste, vous me dites ce que vous en pensez, je vais revenir sur la question de Lynn Chapman par rapport au parmi. On pourrait dire parmi en forçant un peu, mais ça ne va pas. Qui ne reste que son. Je vais reformuler avec le. Je vais reformuler avec le parmi pour montrer à Aline. On estime qu'il ne reste que 3600 rhinocéros au total. On mettrait parmi lesquels 170. Habite en zoo. Alors, le en zoo, il est faux, donc on va corriger ici. Qu'est-ce que vous allez mettre ici, à la place de en zoo? Qu'est-ce qu'on met dans le en zoo? Je vais mettre trois petits points pour pas que quelqu'un corrige une erreur. Mais lesquels sont son habite? Au total, 170 d'entre eux habitent, alors on dit dans des eaux. Dans des eaux. Dans des eaux. Habitent dans des eaux. Alors, Kali dit dans les eaux mondiales. Attention, parce qu'un zoo, c'est masculin. D'accord ? Donc, ce serait dans les eaux mondiaux. Les médias en Inde ont parlé de cet événement car la nouvelle concerne un animal dont l'origine est ce pays. Donc là, c'est une traduction littérale. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place de dont l'origine est ? Qu'est-ce que vous mettriez à la place? Là aussi, vous pouvez avoir une traduction de l'anglais qui correspond bien, mais dont l'origine est, c'est grammaticalement correct, mais on ne le dirait pas en français. Qui vient de Diana? Tout à fait. Ben voilà. Qui vient de? Le dont l'origine est, je pense que si tu l'écris dans un examen de français, à l'écrit, ça passe parce qu'on va te mettre, on va être sympa avec toi parce que la grammaire est correcte, mais on ne dirait pas ça, ce n'est pas fluide. Donc, qui concerne un animal qui vient de ce pays. Voilà. Donc, ici aussi, si on y passait un quart d'heure, 20 minutes encore, on pourrait ajuster, mais on a quelque chose qui là est grammaticalement correct et fluide, qui est bien articulé et ça tient la route. Donc, ce que j'apprécie, Anna, dans ton travail, c'est qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe. Donc, ça, c'est très important. C'est vraiment bien. Tu as essayé de faire quelque chose de construit. C'était bien. Le « on estime », il est vraiment très, très bien. Et après, en fait, il y a des petites erreurs de temps, mais qui sont difficiles à... Ça arrive à tout le monde. Et d'ailleurs, tous les devoirs que j'ai regardés, parce que j'ai lu, là, j'avais commencé à corriger pour Ingrid, avaient des fautes très similaires. Donc, c'est bien parce que ça prouve que vous faites des progrès. Et ça, c'est très important. Donc, continuez comme ça. C'est super bien. Je sais que pour ceux qui font partie du French Conversation Club, là, on avait une réunion la semaine dernière. Et ils sont époustouflés par les progrès que vous faites. Et j'ai vu certains d'entre vous, parce qu'ils m'ont envoyé un enregistrement pour un peu qu'on puisse travailler sur chaque prof. J'ai vu Lynn, j'ai vu Jack, et j'ai vu certains d'entre vous. Et c'était super bien. Donc, continuez comme ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que vous faites des progrès. Moi, j'en fais partie. Et c'est super. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. La prochaine fois, j'ai noté, on va travailler sur quand même n'importe quoi, quoi que ce soit. Je vais essayer de vous faire des petits exercices. Et je vous souhaite bon courage pour les temps qui viennent. On se voit dans 2 semaines. Et pour la suite, enfin, il y aura d'autres choses entre-temps parce que YouTube, merci à tous ceux qui ont répondu à l'enquête, à la grosse enquête qui a dû vous prendre une demi-heure. Les résultats sont vraiment super et ça va nous permettre de planifier toute l'année 2021 en faisant des choses qui vous correspondent. J'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes sur la compréhension orale et ça, on va travailler dessus. Voilà. Hop. Bonne journée, une bonne nuit, à la prochaine. Salut tout le monde!